dans le 94 et j'en ai marre qu'on nous prenne pour des cons, qu'on nous méprise, parce que cette année déjà on a eu vraiment beaucoup de problèmes, on doit payer nos livres de langue, on a des emplois du temps, c'est n'importe quoi, et en plus avec la réforme Fillon, l'année prochaine ça va encore empirer, on va nous supprimer toutes les options artistiques. Déjà qu'on n'a plus beaucoup de temps pour le théâtre, alors il y en a marre, en plus, excusez-moi, mais l'idée du socle commun au bac, là c'est vraiment, c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Surtout que ce qu'ils veulent faire, c'est nous sous-éduquer pour pouvoir après mieux nous diriger. Mais il faut savoir que nous, on n'est pas des cons, on sait ce qu'on va nous faire et on n'est pas prêt à l'accepter. Merci.
Salut Daniel, moi c'est Eddie, j'ai 17 ans et non, pas encore majeur, affilié à aucun syndicat et pourtant, je vais t'appeler hier mais j'ai pas pu, j'avais trop mal à la gorge. Et ouais, je faisais partie des quelques 3500, 4000 lycéens qui sont descendus dans les rues de Lyon mardi, protester contre la réforme de Monsieur Fillon concernant notre système scolaire. Si ça passe, pour eux ce sera double bénéf, ils vont économiser de la thune et leur truc, parce que ce sera plus une école, va créer des zombies à manipuler sans problème. L'école a été créée au départ pour transmettre le savoir, d'après moi. Eux voient plutôt une machine à créer des travailleurs, orientés dès la cinquième au collège. En cinquième? Faut pas déconner à 12 ans avec Monsieur Fillon, sinon tu vas faire un métier que t'aimes pas toute ta vie. Et ce n'est qu'un détail de la réforme. Donc voilà, 4000. 4000 en était. On pensait être 700. Tout ça à l'initiative de 7 gars. C'est grand pour une action mise en place du jour pour le lendemain. Et ça veut peut-être dire quelque chose, non? Je crois qu'on était 10 000 en France en tout. C'est bien pour une action de prélude. Et ouais, la vraie manif, c'est demain, jeudi. Et j'y serai, même si j'ai encore un peu mal à la gorge. Le soir, on parlera de nous aux infos, et j'espère qu'il aura entendu notre appel, notre foutu ministre. Parce qu'il faut qu'il arrête ses conneries.
19h09, France Inter, une information de toute importance, le suspense plane. Jean-Paul II pourra-t-il mener, parcourir son chemin de croix pour Pâques, oui ou crotte? Sinon, peut-être que cela donnerait du poids aux arguments des partisans de sa démission. On s'en fout!
Appel à tous les humanistes, Michel de Rion. Selon le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, l'Élysée aurait œuvré en coulisses à l'installation du fils du dictateur Yadema. Un opposant au régime lance le 7 février à Paris un appel de soutien au peuple français. Ne laissons pas les événements de 1990 dénoncés par Amnesty International se reproduire. Corps jetés dans la lagune, dans la mer, ne laissons pas massacrer le peuple togolais.
C'est Antoine, je voulais simplement dire à Daniel Mermet, à son équipe de beaufs, là, notamment celui qui compte jusqu'à 35, qui mobilise l'antenne, lui, je souhaite qu'il soit au chômage, déjà, il verra ce que c'est que de pas travailler. Et deuxièmement, je trouve que c'est un petit peu facile de se moquer de quelqu'un qui meurt et qui a certainement plus fait pour l'histoire que cette émission de merde, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À plus, ou à jamais.
Aujourd'hui, c'est le 322e jour que Madame Benedetta Berdica, réfugiée albanaise, et ses deux enfants sont maintenus en situation irrégulière par Monsieur le préfet des Vosges et Monsieur de Villepin, qui refusent de lui délivrer une carte de séjour en dépit des instructions formulées le 22 mars dernier par Monsieur Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Il est vraisemblable, apparemment nettement, que Madame Berdica et ses enfants soient les victimes innocentes de lutte d'influence au sein de l'UMP. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas.
Oui, ben voilà, moi j'entends l'émission de tout à l'heure et ça m'a fait bien plaisir d'entendre la réaction de Olivier et de sa petite camarade de jeu, parce que moi j'ai fait une école comme la leur, enfin comme celle que j'imagine qu'ils ont dû faire, et j'ai l'impression que ben si on fait pas le chemin que font les gens qui travaillent dans chez Accenture et dans des boîtes comme ça, et ben on passe pour un gros loser et je trouve ça un peu nul en fait, parce qu'on n'a pas trop le choix, soit t'es L'Oréal IT, soit t'es Accenture IT. Et donc c'est un peu chiant comme parcours, parce que c'est des études intéressantes, on apprend plein de choses, mais moi ça m'énerve un peu de savoir qu'après le passage obligé c'est de devenir un petit trou du cul qui gagne super bien sa vie mais qui est un sale petit con et qui a une mentalité de merde. Donc ça me fait bien plaisir d'entendre qu'il y a des gens qui sont pas contents et qui sont pas heureux dans ce boulot là, parce que peut-être qu'un jour ça va changer. Voilà.
J'ai pris en fait l'émission en cours, donc c'est un peu dommage, mais c'est vrai que je me suis un peu retrouvé. Il y a 8 ans de ça, j'ai débarqué dans une boîte sans citer Capgemini, jeune diplômé, me disant que j'ai tout à apprendre là-dedans. Et apprendre parachute dans un bled, 300 km de chez toi, le commercial t'annonce qu'il t'a vendu, j'ai bien dit vendu, à 1500 balles la journée. Et toi, t'as la pression à fond parce que tu sais que le client va te regarder de la tête aux pieds et tu as intérêt d'assurer, sinon t'es mort, entre guillemets. Et en fait, les 1500 balles, tu te rends compte qu'en une semaine, ils ont payé ton salaire. Ça qui est un peu triste, surtout quand ils te prennent au tournant quand t'as utilisé le téléphone de l'hôtel pour appeler ta femme et pour lui souhaiter un bon anniversaire. À bientôt, j'espère.
Je jubile, c'est une émission vraiment qui me met en joie, je me reconnais complètement dans ce qui est écrit. J'ai hâte de lire la thèse de Vincent Petitté. Moi, je travaille pour un groupe qui s'appelle Altran. Et je fais partie des gens qui sont difficiles à manager parce qu'ils ouvrent leur gueule. Et voilà, quoi.
Pas facile, hein. Ça n'a pas été facile pour la plupart d'oser parler. La plupart sont restés anonymes. Je parle bien sûr des auditeurs concernés, consultants eux-mêmes ou travaillant dans cette branche à qui j'ai demandé de témoigner dans la fin de l'émission d'hier. On a eu pas mal de témoignages. Quelques messages aussi sur le mail de la base où j'y suis, daniel.mermet@radiofrance.com. Et puis le numéro du répondeur de la base où j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. Mais quand même, quelques auditeurs et auditrices ont osé sortir de l'ombre. C'est quand même extraordinaire que ceux qui sont les modèles de notre société, les plus beaux, les plus gâtés, les mieux habillés, les plus jeunes, les plus musclés et avec les plus belles nanas et roulant dans les plus belles voitures, soient à ce point mystérieux et craintifs quand on leur tend un micro pour leur dire comment vous vivez, quel boulot vous faites. Ça a été quand même pas simple de les rencontrer et qu'ils nous parlent. Et on continue aujourd'hui avec ceux qui ont eu cette audace. Up or out, c'est notre deuxième volet aujourd'hui. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas. Si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Le point de vue développé hier sur le monde du conseil, je l'ai trouvé partiel et partial. Moi, je suis consultante dans un petit cabinet de province. Je me retrouve pas du tout dans la caricature du jeune consultant aux dents longues qui règle le parquet et qui vote à droite. Il existe une foultitude de petits cabinets qui se limitent parfois à un consultant. Bref, 4 à 5 consultants, des PME. Et il y a autant de différences entre ce genre de cabinet et un monstre international comme Andersen qu'entre un artisan maçon et un monstre du BTP. J'accompagne des réorganisations et des changements dans le secteur public, dans le secteur associatif également. Et le stéréotype repoussoir du fonctionnaire qui a été évoqué hier est faux, comme beaucoup de stéréotypes. Moi, j'admire beaucoup de cadres et de directeurs avec qui je travaille, qui font bien plus de 35 heures, qui sont passionnés par leur job, qui ont une conscience politique aiguisée, qui décident, qui agissent, bref, qui sont efficaces. Chez nous, le consultant héros du quotidien, il est plutôt discret, parce que moins il est visible, et plus il est en capacité d'agir. Il ne se pointe pas en BMW série 5, et il parle exclusivement français. Et quand il est contraint d'ouvrir le portable en réunion, il fait attention à ce que ce déballage soit pas trop ringard, parce que c'est déjà un peu has-been. Voilà, un autre point de vue sur le monde du conseil, et merci Daniel Mermet pour vos émissions.
Je viens juste d'écouter ton émission là sur SEC de consultant, là, MacGregor, et je me posais une question. Au slogan « Work hard, play hard », n'aurait-on pas pu rajouter « drug hard » en effet, pour s'en remettre au travail? Rien de tel qu'un bon petit rail. Allez, salut, c'était Johan de Saint-Brieuc.
Nous sommes le 9 février. J'ai écouté avec beaucoup d'émotion cette émission. Aujourd'hui, je suis retraitée. Lors de mes dernières années de labeur, j'ai côtoyé les consultants. J'ai pu mesurer leur effet dévastateur. Je pensais quitter cette planète avant d'entendre cette réaction positive d'aujourd'hui. Félicitations pour vos émissions. Elles sont une bouffée d'oxygène. N'oubliez pas demain de signaler les documents concernant ce sujet. Je vous remercie infiniment.
Bah moi, je pense qu'on peut pas être à la fois un mouton et un mutin. Être le bâtisseur d'un monde ultra-libéral et apprécier des penseurs de tradition marxiste comme Deleuze ou Derrida. Ou alors ces gens-là ne savent pas lire. Voilà, c'était Mathias Sardèche.
Alors les Anglais disent « work hard, play hard ». Travaille comme un fou et éclate-toi après. Play, 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 oh.
Ces gens-là ne sont pas l'élite. Il manque, je pense qu'il manque un petit peu tout bêtement d'ouverture d'esprit sur qu'est-ce qui pourrait être possible d'autre. Ils ont été préformatés dans leur école, ils sont reformatés dans leur cabinet. Dans ce genre de boulot, on nous apprend pas à avoir un regard critique sur sur ce qu'on fait ou sur le système auquel on participe.
Jean-Pierre Graffin, 45 ans, chez Levert depuis 20 ans. Moi, j'ai commencé comme ouvrier de production et j'ai terminé en fin de carrière, enfin si on peut dire en fin de carrière, avant que l'usine ferme, j'ai terminé au labo. Tout compte fait, ben quand je vois dans mon secteur, enfin dans mon quartier où j'habite, des gens qui sont défavorisés, au début je disais tiens, je crois que maintenant ben je vais devenir comme eux, ce sera vite fait. Hein.
Le jour où on m'a dit, tu vois où on peut raboter les dépenses de recherche et d'investissement, tu vois où on peut raboter les dépenses en personnel, les dépenses d'investissement, tout ça pour pouvoir enrichir quelques personnes. Là j'ai bien compris que le boulot qu'on me faisait faire allait être payé en fin de course par des gens qui n'allaient pas avoir d'issue de secours.
Bernard Schuster, 52 ans, 30 ans donc de travail ici dans cette usine, à la recherche d'un emploi, si tant est qu'on peut retrouver un emploi effectivement à 52 ans. Ma qualification, c'est quand même chimiste, et aujourd'hui, dans la chimie, il n'y a plus grand-chose dans la région. Donc il n'y a pratiquement aucun espoir de retrouver du travail dans la région.
Bon, le but, comme on dit, c'est tu montes ou tu sors. C'est ce qui se dit dans le milieu, c'est up or out. Le principe, c'est d'être performant, donc les gens qui sont pas bons n'intéressent pas l'entreprise.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Olivia Gesbert. Up or out.
Flight number 2, arriving from New York.
Aubépine, là on est dans ce qu'on appelle le triangle doré ou le triangle d'or, c'est-à-dire on est sur les Champs-Élysées et à deux pas de là où tu travaillais, on est devant le Sir Winston, c'est un pub qui fait restaurant aussi. Plutôt élégant, ambiance club anglais, c'est sympa.
Voilà, on retrouve Aubépine aujourd'hui. Je rappelle qu'Aubépine a 32 ans. Qu'elle a fait des études supérieures, Sciences Po, sociologie, etc., etc. Elle a travaillé dans des cabinets de conseil, dont certains situés dans le quartier où nous sommes, c'est-à-dire autour des Champs-Élysées, à Paris. Elle n'a pas travaillé, elle, dans ce qu'on appelait des Big Five, ou maintenant on dit Big Four, c'est-à-dire les grosses boîtes de conseil et d'audit, KPMG, Deloitte, Price, Capgemini, tout ça, elle a travaillé là-dedans. Elle n'a pas travaillé non plus chez Andersen, puisque Andersen a coulé, on a évoqué hier cette énorme boîte, énormément compromise lors de la chute d'Enron, et qui a chuté avec Enron, on se souvient, de cet épisode. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de savoir avec Olivia? Ben, c'est comment on vit, puisque on nous l'a dit hier, il s'agit bel et bien d'un visage invisible du capitalisme que celui du consulting. Alors, beaucoup d'auditeurs ont tenu à nous faire savoir, attention, vous mélangez tout, il y a les petits et les gros. Eh ben, d'accord, là, on est chez les gros, on ne s'occupe pas des petits plus tard. Effectivement, là, ce sont des gens qui ont travaillé dans des grosses boîtes et qui nous disent, voilà, on est effectivement ce monde de la des consultants, ce monde du conseil, ce monde de l'audit, même si ce sont, j'ai bien compris, j'ai fini par comprendre, deux choses différentes. C'est un monde à la fois policé et violent qui correspond tout à fait au film de Jean-Marc Moutou, au titre du film de Jean-Marc Moutou, Violence des échanges en milieu tempéré. On est ici avec des tueurs doux, avec des cyniques conformistes, avec des bourgeois compassionnels, avec des bobos éventuellement radicaux chics. C'est tout à fait possible, tout ça peut tout à fait cohabiter du moment que la machine marche. Ce qu'on a appris quand même, on s'en doutait un petit peu, c'est que c'est un univers qui est fermé, qui est caché, qui est invisible sur l'irrémédiable, sur il n'y a pas d'alternative, sur c'est comme ça et pas autrement, sur le on n'y peut rien, sur le fameux naturellement célèbre maintenant. Eh ben non, il y a des visages, il y a des vies, il y a des gens, et ils parlent jusqu'à 18h dans la base si j'y suis. Up or out.
Intriguée par ce mode de vie où on travaillait très tard le soir, on travaillait le week-end, on se baladait toujours avec un ordinateur portable au bout du bras. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils travaillent autant? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce qui se fait dans ces, qu'est-ce qui se fabrique dans ces boîtes-là, quoi? C'est ça qui m'intéressait. Et puis il y a aussi autre chose qui est souvent mis en avant par les consultants, c'est que très jeune, on est amené à côtoyer des gens très haut placés. Alors ça les excite terriblement, parce qu'ils ont 30 ans, 35 ans, et ils parlent avec le PDG de vraiment de grosses boîtes. Juste pour donner un exemple, je recevais des cartes de vœux de nouvelle année du DRH de telle boîte, du PDG de telle boîte. Il suffisait que je les ai vues une fois, et hop, je reçois une carte de vœux signée de telle personne très très haut placée dans une très grande boîte. Donc des gens qui ont beaucoup de pouvoir, dont les décisions affectent énormément de gens, qui manipulent beaucoup d'argent, qui sont mêlés à des décisions politiques. C'est marrant de se rendre compte qu'on est aussi proches, quoi, qu'ils sont pas très loin finalement. Il suffit de monter un étage et puis peut-être qu'on va se retrouver à boire un café avec eux à un buffet de l'entreprise, quoi. C'est rigolo. À l'époque, si j'essaye de me souvenir un peu ce que j'avais dans la tête, je pensais que ça serait exaltant de participer à des prises de décisions comme ça, qui seraient très, des décisions qui seraient très difficiles à prendre, mais qu'on prendrait quand même, et on verrait que on s'était pas trompé, on serait vachement content, on vivrait des choses fortes ensemble, en équipe. Enfin, je pense que je vivais un peu dans une série américaine, quoi. Je voyais ça un peu comme ça. Moi, je vois plutôt ça comme des gens qui sont pris dans un système, des gens qui essaient de gagner leur vie du mieux qu'ils peuvent et qui sont sur des objectifs de statut social et de réussite matérielle, quoi.
Tu l'as gagné bien, ta vie ?
Ah ouais, je gagnais bien ma vie, ouais. Ouais, ouais. Je gagnais 20 000 francs net par mois. 3 198 euros, pour être exact.
Pas mal, à 27 ans, c'est pas si mal quand même pour commencer une carrière. Ceux qui la reconnaissent, ceux qui entendent ça et qui sont dans ce métier du consulting, disent, oui, mais d'accord, mais elle est out, voilà. C'est tout simple. Elle, ça lui plaisait pas. Elle était pas faite pour ça. Elle est partie. Et puis voilà, il y a pas d'autres problèmes que ça. Voilà. Vous savez, les téléréalités qui sont tellement critiquées, tous ces jeux du type le maillon faible ou Oui Chef, etc. C'est jamais qu'une version euphémisée et somme toute plaisante du vrai monde de l'entreprise. Enfin, au moins de ce genre d'entreprise, un monde absolument impitoyable, avec un univers impitoyable, avec des dehors absolument cool, sympas, décontractés, douillets, de bon goût, et de la culture. Surtout, c'est le capital culturel, le capital symbolique culturel est très très important. On nous l'a dit et redit, on cite volontiers n'importe quoi, absolument n'importe quoi, du moment que ça commence par Spinoza et ça finit par Nietzsche, Sartre, qui vous voulez, vous pouvez citer, du moment qu'il y a cette profondeur de champ culturel. On ramasse tout, on avale tout, on digère absolument tout, y compris cette émission qui fait sourire, qui amuse, qui agace, qui sera peut-être vu comme un élément de critique qu'on pourra étudier, tout se récupère. Donc nous sommes en train de pisser dans un violon. Mais il y a quand même peut-être un petit peu de conscience et des gens qui ne sont pas encore tout à fait contaminés par ce cynisme ambiant ou qui ont essayé de s'en sortir. C'est le cas de Wépine, c'est le cas aussi de son camarade Olivier qui ça peut paraître un peu pornographique, est doué de conscience.
Parfois, on peut aussi avoir de vrais cas de conscience. Je me souviens avoir travaillé sur la reprise d'une grande entreprise industrielle française par un fonds d'investissement américain. On me disait, bon, vois où est-ce qu'on peut réduire les dépenses de recherche et développement, vois où on peut réduire les investissements. La masse salariale nous semble supérieure à ce que dépensent les concurrents, etc.
Et quelles conséquences il devait en tirer de tes courbes ?
Rationalisation. Ça veut dire licenciement, réduction du nombre de sites, réduction des investissements. Bon.
Ça a pris un visage humain ou pas particulièrement ?
J'obéissais à un chef, donc il fallait aussi que je rende le boulot parce que mon poste était en jeu, mais rétrospectivement, ça m'a quand même travaillé. Sur le moment, on voit des entreprises qui emploient 10 000, 100 000 personnes, qui sont uniquement des business lines, des chiffres d'activité par division, des résultats par division, des EBIT, des EBITDA, des EBIT earnings before interest and tax. C'est une réalité très matérielle, c'est la valeur de l'action. Pour un certain nombre de gens, ça, c'est une réalité tout à fait tangible. Mais ce sont pas les mêmes que ceux qui se retrouvent à la chaîne et qui contrairement à ce qu'on pense dans ces milieux-là, peuvent pas changer de boulot aussi facilement. Ils ont une maison, ils ont des dettes, ils habitent à la campagne ou dans des petites villes. Et ils peuvent pas passer d'un cabinet à l'autre avec des indemnités monstrueuses. Et ces sacrifices-là, il y a des gens qui vont devoir les faire pour engraisser quelques personnes qui disposent de capital à la base et qui vont maximiser. Alors, il y a plusieurs attitudes par rapport à ça. T'as des gens qui sont libéraux, un peu cyniques ou ou fataliste. Bon, j'étais un peu comme ça. Bon, bah tant pis, c'est la vie. Une entreprise, c'est fait pour marcher ou pour crever. Bon, enfin, on peut être cynique par rapport à ça. Ou alors on peut venir, on peut intégrer des valeurs d'une bourgeoisie d'affaires assez traditionnelle, ou je dirais même traditionnaliste. On compatit, on va à la messe, on donne aux charitiers. Mais j'ai l'impression qu'il y a une troisième classe de gens maintenant qui émergent dans ces milieux. C'est des bobos simplement, qui sont à fond dans le système dans la journée, mais une fois rentrés chez eux, ils sont altermondialistes. Ils se disent... on est victime des patrons, on est des salariés, on est du côté des victimes des capitalistes. Et je trouve que cette contradiction, elle est complètement intenable. On peut pas jouer les anti-patrons d'un côté et le jour où on est dans l'isoloir, regretter, voter pour ceux qui vont protéger les ouvriers ou regretter l'écrasement des classes populaires. Alors que 70 heures par semaine, on travaille pour engraisser quelques financiers qui ont les bons coups, qui disposent du capital au départ. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en supprimant des emplois qui sont occupés par des gens qui gagnent 50 francs de l'heure, on est quand même facturé à l'entreprise cliente 10 000 francs de l'heure. Donc une partie de la création de valeur ou de la rationalisation ou du gain, appelons-le comme on veut, finit dans des poches assez intéressées.
Tu peux très bien dégraisser entre guillemets, comme on dit, une entreprise et rationaliser les coûts et te dire que tu sauves la boîte, quoi. Tu peux très bien faire ce boulot en entretenant l'illusion, ou du moins sur l'argumentation selon laquelle tu fais quelque chose de bien pour les gens. Mais je dis pas que ce discours que les gens se tiennent pour faire ce sale boulot, il est justifié, hein. Je dis juste que il est possible que les gens qui mettent en œuvre des plans sociaux se disent ça pour tenir le coup.
Pour un premier contact, je les sens bien. Bon, c'est pas des flèches, mais j'ai vu pire, surtout dans l'industrie. Résultat de la journée information Stuttgart, mailing à envoyer. Bon, l'important, c'est de savoir si Janson peut être rapidement mis au standard de notre client. Lui, ce qu'il veut, c'est poursuivre son expansion dans le titane et les alliages légers. Pour que ça fonctionne chez Janson, faut tout redéfinir. Baisse des coûts, gain de productivité, redéploiement commercial.
Et ça risque pas de se savoir?
Quoi?
Mais le rachat?
Alors là, c'est le fiasco. Grève, l'acheteur qui se tire et nous, on remballe. Rendez-vous vers Talcolmar le 6, pensez au dossier 5S. Bon, ça va la clim? Tu cailles pas trop?
Non, c'est bien.
Là, je préfère, la chaleur, ça m'endort. Non, il sait ce qu'il fait, le PDG, oh là là. Vendre sa boîte à un grand groupe, mais c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Il a pas redressé la barre, il a pas tapé là où ça fait mal, et en plus, il empoche le pactole, alors.
Et tu penses que ça peut aller jusqu'à une restructuration?
Ah bah, les acquisitions sans compression, c'est pas monnaie courante.
Même le licenciement, ils n'ont même pas eu l'honnêteté de le dire. Franchement, aux ouvriers, il a fallu qu'on regarde la 3 pour qu'on dise qu'il y a un dépôt de bilan. Et je trouve ça honteux. Honteux.
Qu'est-ce qui est marqué là?
Ici, travailler pour nourrir leur famille, les humains que Glencore a fait disparaître. Glencore, c'était une sangsue géante. Le 24 février 2003.
Pour continuer et pour réussir dans ce travail-là, il fallait afficher certaines valeurs. Et pour afficher des valeurs, à moins d'être schizophrène, il faut les avoir adoptées. Et moi, ces valeurs-là, elles n'étaient pas les miennes. Et c'est pas un boulot, même si c'est un boulot qui paye relativement bien, c'est pas un boulot qu'on peut faire que pour le fric. Il faut y croire.
Croire en quoi?
Bah, il faut croire, par exemple, que faire du profit, c'est bien, que faire plus de profit, c'est mieux. Il faut croire que le profit, c'est la solution à tous les problèmes. Il faut vivre avec le fait que, effectivement, ça résoudra aucun des problèmes très graves qu'on a aujourd'hui, quoi. Qui est le fait que 1 milliard de gens ne mangent pas à leur faim tous les jours, que le profit détruit l'environnement, que le profit détruit l'humanité parfois. Voilà, il faut pouvoir vivre avec tout ça
sans jamais se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Sans jamais interroger qu'est-ce que c'est. C'est quoi le profit? C'est du profit financier ou c'est du profit autre chose? On veut être plus efficace, plus rentable, plus performant. Qu'est-ce que c'est qu'être plus efficace? Qu'est-ce que c'est qu'être plus performant? C'est quoi la performance? Qu'est-ce qu'on met dedans? Faut être des bons petits soldats, quoi. Faut avaler ces mots d'ordre-là et les recracher à la demande.
Mais je suppose que dans ce monde-là, on y met quelque chose derrière le mot profit, derrière le mot performance.
Bah oui. Ben c'est des choses déjà qui peuvent se mesurer avec des chiffres uniquement. On réduit tout aux valeurs comptables et financières. Et surtout, surtout, on réduit tout aux intérêts des comment ça s'appelle ? Stakeholders, merci, des actionnaires. C'est pathétique. Des actionnaires qui sont un seul intérêt parmi d'autres, qui sont des intérêts purement financiers. Et c'est au nom de ces intérêts financiers, on détruit d'autres choses. Quand on met des personnes au chômage, bah, ça fait du déficit social, ça fait des dépressions nerveuses, ça fait des familles qui se brisent. Je sais pas, on ne replace pas ce qu'on fait dans un cadre plus global. À partir du moment où on le fait, bah, c'est difficile de continuer à croire à ce qu'on fait dans ces boîtes-là, quoi. Et à 30 ans, je cherchais pas une planque, hein. Je voulais faire quelque chose de bien de ma vie, quoi. Ce qui m'a coûté le plus et ce qui a fait que j'ai arrêté, c'était le mensonge. Pour moi, c'était un mensonge. C'était nourrir un faux personnage. Et tu te dis, j'ai pas autre chose à faire de ma vie, quoi. Mais en tout cas, ce que je fais aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais et je me sens pas en situation d'imposture.
Tu regrettes parfois d'être partie ou...
Non, jamais. J'ai jamais regretté. Je suis dans ma galaxie, quoi. J'ai trouvé ma planète, alors après, faut peut-être trouver le pays et tout ça, mais au moins, je suis pas loin de chez moi, quoi.
Voilà, du courage aux Bépines, ça a l'air de rien, mais c'est du courage. On a, pendant des années, je le disais hier, essayé de raconter ces plans sociaux, les dégâts, les victimes. Voilà, là, on retrouve... des voix entendues dans, au cours de nos reportages à Unilever, Moulinex, etc. Ça, on en a fait beaucoup. Mais c'est ceux qui sont souvent, parfois, pas toujours, mais souvent, ou qui risquent d'être obligés d'accepter d'être les exécuteurs de ces plans sociaux, eh ben, les voilà, enfin, ils osent parler.
Le jour où on m'a dit, tu vois où on peut raboter les dépenses de recherche et d'investissement, tu vois où on peut raboter les dépenses en personnel, les dépenses d'investissement, tout ça pour pouvoir enrichir quelques personnes, là j'ai bien compris que le boulot qu'on me faisait faire allait être payé en fin de course par des gens qui n'allaient pas avoir d'issue de secours.
Ton succès à toi, finalement, allait avoir un coût social.
C'est ça, on arrive à faire commettre aux gens des actes de violence sociale en leur donnant l'appât du gain. Bon, au moins, je me dis que maintenant, je participe plus à ça. J'ai pensé après que ça me coûtait trop de servir ce système. Bon, c'était le moment où la guerre d'Irak commençait. Je voyais bien que c'était une des conséquences, du travail que je faisais, du système que je servais. Ça assoit la domination d'un système économique de quelques pays occidentaux. J'allais devenir esclave de la cupidité et que j'allais jamais savoir voir les choses autrement qu'en part de marché ou en termes comptables. Alors on connaît les grands patrons pour leurs salaires qui sont complètement indécents. Ce qu'on sait moins, c'est que quand on est banquier d'affaires, on peut gagner 10 millions d'euros par an. Quand on est trader dans une banque, dans une salle de marché, on peut gagner 10 millions d'euros par an. Quand on est partenaire dans un cabinet de conseil, on peut gagner 1 million d'euros par an. Quand on est avocat d'affaires, on peut gagner les mêmes sommes. Et on n'est pas exposé au regard social. C'est en ça que je dis que c'est le visage invisible du capitalisme. Ce sont des professions qui au final tirent parti du système, du moins pour quelques-uns, et tout le monde espère y arriver. Et qui vivent dans l'ombre, dans la discrétion. C'est un capitalisme qui est à la fois policé et violent, puisque C'est un milieu qui est trop éloigné de la réalité du plus grand monde pour prendre conscience des conséquences très dures de ces décisions. J'ai sauvé ma peau, ça me paraît évident, même si pour la stratégie patrimoniale, ben, c'est foutu. Ma peau, mon esprit surtout.
Alors, qu'est-ce qu'il y a ?
Je veux que tu me changes de mission.
Mais c'est pas un self, mon petit Philippe. Je t'ai choisi, c'est pas pour me déjuger en cours de route.
Je veux pas être un coupeur de tête. Tu te rends pas compte, c'est l'enfer de les voir défiler. Tous ceux qui remplissent pas les critères. Qui ont une vie pas possible, qui arrivent pas à s'adapter. Parce qu'ils le sentent. Ils me voient venir.
Mais qu'est-ce que tu crois ? On est tous passés par là. Il faut que tu rationalises. Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1. Si tu t'arrêtes sur chaque cas, tu oublies l'ensemble qui est de rendre cette boîte efficace, compétitive.
Mais il n'y aurait pas de rachat, il n'y aurait pas de plan social.
Oh, t'es très fort, t'as une sacrée maîtrise du marché. Moi, je te dis que c'est le contraire. On serait pas là, ce genre de boîte serait liquidée en moins de 2. Et alors là, c'est tout le monde dehors.
Et pourquoi tu ne demandes pas un autre junior ? Il y en a plein au cabinet qui ça poserait pas de problème.
Belle mentalité. Je veux être consultant, mais je veux pas voir la réalité. C'est ça ton ambition, décortiquer des chiffres derrière un ordinateur ? Tu crois que t'es là par hasard ? J'ai bien vu que t'es un garçon sensible. C'est parce que cette mission est délicate que je voulais quelqu'un comme toi.
C'est peut-être parce que je suis comme ça que j'y arrive pas.
Non, c'est parce que tu te laisses impressionner par quelques mecs qui paniquent. Alors que c'est inévitable. Et qu'on doit être capable de leur faire face.
Je suis désolé. Je peux pas y participer.
En fait, t'es une vraie mauviette. Écoute, dans ce cas, je peux rien pour toi, je te ramène à Paris. Je te remercie, tu me fous dans une sacrée merde.
On est liquidé. On est liquidé.
On a l'arrêt. C'est calme. Il n'y a pas de bruit, c'est froid. Donc je suis trop jeune pour partir à la retraite. Et trop vieux pour avoir un job.
On est liquidé. On est liquidé.
Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ces tocards ? Est-ce que tu peux me le dire ? C'est toi qui vas le payer cher. Hein, c'est pas eux qui vont me dire t'aider. Jamais, jamais. Ah, c'est la première fois que je me trompe sur un junior, alors je te remercie. Et tu réfléchis bien, parce que moi lundi, j'envoie quelqu'un à ta place. Tu as compris ça? Et tu me regardes. Tu as compris?
J'aimerais que nous reprenions ensemble notre devise.
Walk out, play out.
Voilà, extrait du film de Jean-Marc Moutou, Violence des échanges en milieu tempéré. C'est tout à fait notre sujet du jour. Hier, on a rencontré Vincent Petitet, qui est un chercheur et qui, de l'intérieur même d'une plus grosse entreprises d'audit et de consulting a écrit une thèse sur communication et domination dans les organisations, analyse d'un cabinet conseil international, voilà l'intitulé, où on trouve des expressions comme généalogie de l'obéissance, institutionnalisation de la domination, orthopédie sociale, management de la docilité, mobilité infinie de l'individu et de ses ressources, un langage très savant, très universitaire, pour dire eh bien autrement les choses qu'on vient d'entendre.
La ligne principale de toutes ces interventions, c'est le profit. Hein, il s'agit d'aller vers un maximum de profit à tout prix. Et ces petits soldats participent de ce système. Est-ce qu'ils en sont conscients?
Bah bien sûr, ils en sont conscients, puisque la majeure partie d'entre eux viennent d'écoles de commerce. Donc quand ils intègrent ces structures, c'est aussi pour faire du profit. Et ils en sont d'autant plus conscients que le projet comme ça de ces entreprises de conseil, c'est un projet aussi de mathématisation du réel, c'est-à-dire qu'on va tout rendre chiffrable. Chiffre d'affaires, façon de gérer le personnel, tout devient chiffrable. Donc le but du chiffre, c'est de faire plus de chiffres. Donc, on est tout à fait conscient qu'on est dans une réalité où ce qui prime, c'est effectivement le profit, c'est faire des affaires, c'est s'agrandir, ce sont les fusions-acquisitions. Donc, un développement comme ça de la puissance financière, comptable et économique des entreprises. En plus, on est dans une division du travail extrêmement forte, donc on n'a pas toujours conscience des conséquences finales de telle ou telle mission. Et puis, ça nous intéresse pas forcément de savoir ce que va devenir l'entreprise dans 3 ans et demi, par exemple.
Je suis un repenti, ou en tous les cas, je serai un repenti quand j'aurai changé de travail, dans le sens où j'aurai contribué à un système qui, à mon avis, est vraiment, vraiment condamnable. Je parle d'un système condamnable pour l'exclusion qu'il génère et pour la misère et la détresse qu'il génère.
C'est vrai que ça peut être une connaissance intellectuelle. Oui, on sait, il y a des inégalités. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est comme ça que ça marche, la société. Et puis, il y en a, ils travaillent pas assez. S'ils voulaient travailler plus, ils travailleraient plus. Il y a une distanciation qui peut être très progressive. Il y a des gens qui sont un petit peu partagés, qui se disent « Ah oui, quand même, il y a des inégalités sociales, on est les dominants, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Il y a la Fondation Merton, fondation d'entreprise, qui va aider, par exemple, certaines personnes à retrouver un travail. Et puis, il y en a d'autres, c'est pas leur problème. Hein. Les inégalités, c'est absolument pas leur problème. Si c'est un frein en plus à la bonne marge de l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être assez négatif. On va pas remettre en cause l'entreprise qui nous nourrit et qui nous paye bien. On va pas communiquer sur le fait qu'on ait mis au point une mission de conseil dans une grande entreprise et puis que grâce à la mission de conseil en question, du coup, il y a 400 personnes qui vont être virées. Au niveau de la communication, c'est tout à fait...
D'accord, c'est une affaire de communication. Mais non, je parlais de conscience, c'est un peu pornographique, je reconnais. Mais enfin, est-ce que ça peut arriver?
La conscience qu'on a, c'est que la mission se déroule très bien. Et puis que... Eh ben, on a une super facturation à la fin de la mission. C'est une conscience qu'on a du monde des affaires.
Non, j'arrive pas à croire ça quand même. J'arrive pas à croire que c'est autant de gens puissent être à ce point indifférents au monde qui nous entoure.
Ah ben, le monde qui nous entoure, on le connaît puisqu'on a le bilan comptable de l'entreprise. On mettra peut-être les consultants en première ligne, mais la volonté, c'est pas les consultants qui l'ont. C'est la direction qui souhaite effectivement mettre en place un plan social.
Est-ce que ça leur pose un problème de conscience humaine, de conscience sociale?
Bon, moi j'ai rencontré des consultants, effectivement, ça les emmerdait de participer à telle ou telle mission, parce qu'on savait qu'en bout de chaîne, bon, il y avait éventuellement un plan social. Mais on n'a pas vraiment le choix, parce que qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah ben non, moi je refuse. Bon, ok. Et puis alors, on va être mis sur la table.
Voilà, alors, voilà. Prenons ce scénario, effectivement, il dit, je le fais pas.
Bah alors il dit je le fais pas, donc son manager va lui demander mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu veux pas le faire, il va lui dire bah voilà pour telle ou telle raison, donc le manager va peut-être le mettre sur une autre mission du coup, mais il faudra pas que ça se reproduise trop souvent parce que sinon c'est pas possible. Si on refuse de faire le boulot, qui c'est qui va le faire, qu'est-ce qui va faire marcher la boîte? Quand on n'est pas content, bah on dégage, hein, c'est simple, hein. On va pas commencer à se poser des problèmes de conscience sur chaque mission.
Pour moi, on n'a pas le choix de prendre de quoi que ce soit comme décision, la décision nous a imposé. On est là pour faire exécuter les choses et puis les clients vont pas. Que les barquettes soient fabriquées en Pologne ou fabriquées en France, ce qu'ils vont regarder c'est le coût de production, combien ça va leur coûter. Ils vont pas faire du sentimental parce que c'est fabriqué en France.
Le mot que vous employez le plus depuis tout à l'heure, c'est chiffres.
Oui.
Tout revient à des chiffres. Puisqu'il y a des chiffres, eh bien tout est clair, tout est vrai, c'est évident.
Les mathématiques sont une science exacte.
C'est ça. Donc, il y a plus de conflits humains, de conflits sociaux, puisqu'il y a des chiffres.
Bah oui. La comptabilité, c'est une science exacte. Donc, le capital humain, on va le rendre science exacte.
À travers des chiffres.
À travers des chiffres. Oui, et puis de toute façon, on a un pôle capital humain chez Merton qui va s'occuper de ce genre de problème, qui va essayer de manager le changement dans la douceur.
Comment?
Bah, en montrant aux gens, par des petits ateliers, que... leur plus-value est pas terrible, donc qu'il faudrait qu'ils travaillent un petit peu plus, parce que à force de contester, on travaille pas, on perd du temps, on fait perdre de l'argent à l'entreprise.
Mais il y a bel et bien une idéologie derrière ça, l'idéologie du profit, l'idéologie de la domination, l'idéologie... Et est-ce que c'est dans une entreprise comme ça, on observe la légitimation de tout ça?
Parce que il y a l'idéologie du laisser-faire qui est extrêmement forte. et on va naturaliser ces processus de puissance. On va dire que c'est tout à fait naturel qu'une entreprise comme Merton soit surpuissante parce qu'elle est la meilleure, parce qu'elle s'inscrit dans un passé glorieux. Donc on va prendre en compte dans la puissance que ce qui nous arrange, c'est-à-dire qu'on va laisser de côté les aspects justement facteurs humains, souffrance, maladie, difficultés des consultants. On va justifier un système par ses aspects les plus positifs.
Voilà, après ce chercheur Vincent Petitet qui a donc écrit cette thèse en observant cette entreprise de l'intérieur alors qu'il y travaillait, on retrouve Olivier. Olivier a bossé lui aussi dans une très grosse boîte de conseils et puis là récemment il s'est reconverti, fait des études dans une autre branche en urbanisme. Et pourquoi ça? Eh ben, il avait une carrière pourtant superbe et gagnait beaucoup d'argent jusqu'au jour où, dans le cadre d'une fusion-acquisition, il a été amené à recommander un dégraissage, sous forme évidemment de courbes et de chiffres. On ne touche pas directement à ce cambouis qu'est l'humanité. Mais quand même, ça l'a travaillé rétrospectivement. Tout d'un coup, il a réalisé que tout ça, c'était un peu des vrais gens et des vrais chômeurs et des vraies inégalités et des vrais désarrois et des vraies détresses et des vraies déchéances. Alors, il a changé, Olivier.
Je crois que c'est un milieu qui concentre beaucoup de pouvoir, qui n'est pas forcément connu du français moyen, mais qui a un impact assez décisif sur la manière dont on fait des affaires, sur la manière dont on gère l'économie, dont on gère les entreprises, et au final quand même sur la vie quotidienne des gens. Après, ça profite à qui? J'ai l'impression qu'avec la rationalisation de l'industrie, de l'économie, la mondialisation, la course à la performance, la récompense des meilleurs, il y a des gens qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu là-dedans. Ce sont toutes ces professions qui sont, c'est une élite d'affaires cosmopolite, multinationale, et qui profite, qui a vraiment réussi à capter une partie des gains, une partie de la valeur pour soi.
Et elles en profitent aux dépens de qui?
Ben évidemment, c'est toujours aux dépens de ceux qui se trouvent en bas, puisque on trouve d'un côté que le SMIC est trop élevé, et de l'autre côté, il est absolument pas choquant d'en avoir pour 1000 balles de taxi dans la même journée, ou de se plaindre que l'hôtel où on est allé à 3000 francs la nuit était pas suffisamment confortable par rapport à son rang. Soit c'est un mépris, soit c'est peut-être plus grave, parce que c'est peut-être plus difficile à corriger, c'est l'ignorance. D'une certaine manière, on est aliéné par le boulot, donc on s'en plaint, mais d'un autre côté, on jouit d'un confort de vie qu'on peut pas soupçonner. Il y a tout, on n'est pas concerné, on peut pas le voir, et on est déconnecté du monde réel.
Tu dis ignorance, mais enfin, c'est quand même tous les jours qu'on voit à la télé des entreprises qui ferment, Nestlé qui licencie, Metal Europe qui licencie, et tant d'autres. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne. Et c'est pourtant quand même tous ces cabinets, puis au-dessus ces entreprises qu'on conseille, qui sont, ou qu'on audite, qui sont responsables de ce genre de massacre social, non?
C'est pas des gens, c'est des usines qui sont en trop, ou des lignes de produits qui sont plus rentables, ou une entité qui doit être cédée à un concurrent. Ça n'a pas de visage.
C'est très froid ce que tu dis, non? Cynique ou aveugle?
Cynique et pas réaliste, parce que quand on est cadre sup dans une société de conseil ou d'audit, on peut quand même se recaser relativement facilement. On n'est pas ouvrier dans une petite ville de province sans qualification et âgé de 55 ans quand la boîte ferme. J'ai fait un travail de terrain sur une fermeture d'usine dans une petite ville du centre de la France où plusieurs milliers de personnes avaient perdu leur travail et on voit qu'il y a une dilution des responsabilités entre le capitalisme financier, entre un produit qui marche pas, entre des cascades de filiales et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. C'est que pour parvenir à ces opérations, il y a tout un ensemble de professions, qu'elles soient ce soit des banquiers, des consultants, des avocats qui au passage, eux vont en faire leur business et tirer pleinement parti de la caste sociale qui se fait ailleurs.
Voilà, merci à tous, merci à Olivier, à Aubépine, à Franck, à Vincent Petitet et à Jean-Marc Moutou, l'auteur de Violence, des échanges en milieu tempéré, qui sera projeté le 25 février au cinéma Utopia à Toulouse. Jusqu'au 8 mars, il y a une série de films, Arros sur le boulot, avec notamment Pierre Karl. Et le 13 février, Metal Europe, qui sera projeté aussi, donc, Utopia Toulouse. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Je rappelle aussi le bouquin de Vincent de Gaulle-Jac, La société malade de la gestion, aux éditions du Seuil. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. Alors, rubrique émission, la basse J'y suis. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. L'équipe de la basse J'y suis, c'est Yann Chouquet, Pascal Hop, Pascal Yello et Christophe Imbert, qui s'occupe du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37, où l'on attend vos observations et surtout vos témoignages. Ça nous intéresse beaucoup pour faire dans quelques temps à nouveau une excursion dans ce monde des consultants. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve demain à 17h pour la basse J'y suis. Je vous laisse avec Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut!